Quel bonheur d'être ensemble encore. Alors, j'ai les salutations, bien sûr, de l'Assemblée à vous communiquer. Celle de mon épouse aussi, elle m'a dit, je ne connais pas l'Assemblée d'Aubagne, mais tu les salues bien de ma part. Et j'ai choisi ce moment pour vous le dire, parce que au Sentier, à Paris, aujourd'hui aussi, c'est une journée de jeûne. C'était volontaire, compte tenu de ce qu'on se retrouvait ensemble, eh bien que nos deux assemblées vont jeûner et se tenir devant le Seigneur. Voilà, nous ouvrons la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 16. Chapitre 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Ce verbe annoncer, c'est toujours une bonne nouvelle. Pour l'enfant de Dieu, même quand nous apprenons de mauvaises nouvelles, parce que le Saint-Esprit nous avertit, nous ne réagissons pas comme ceux qui sont étrangers à la vie de Dieu. Les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles, ça fait partie de notre vie. Nous avons l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité avec nous. Et nous savons que celui qui transforme le mal en bien, c'est Dieu. Ce ne sont pas les psychologues, ce ne sont pas les beaux parleurs, ni la superstition, ni la pratique de ce que nous connaissons quand nous nous plaçons ensemble devant le Seigneur. L'Esprit de vérité qui habite nos cœurs et qui travaille en nous pour glorifier Jésus. Nous avons vu hier, vers la fin du message, que David, qui était un homme de l'esprit, je dis souvent, je pense souvent que c'était un pentecôtiste, non pas parce qu'il a vécu la Pentecôte, puisque la Pentecôte est arrivée près de 1000 ans après lui, mais il vivait avec l'esprit du Seigneur. Il savait ce qu'était d'être conduit dans la vérité. Il a connu la chute, mais il a connu le relèvement. Et il a été celui qui affectionnait les choses de l'esprit. Et quand la parole de Dieu parle de David, elle parle toujours avec la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Et donc, au sujet de David, la parole de Dieu va dire qu'il a été fidèle dans tous les commandements du Seigneur, sauf dans l'affaire de Uri le Héthien. Donc, le Seigneur n'est pas là pour effacer notre passé comme s'il n'avait jamais existé, mais quand nous vivons une renaissance. Vous savez, j'ai vu des chrétiens dans l'Assemblée qui vivaient leur vie chrétienne avec un train de vie à eux. Ce n'était pas quelque chose d'exceptionnel, c'était l'habitude. Il y a des habitudes qui sont bonnes. Hein. Jésus allait au temple selon sa coutume ou à la synagogue, etc. Mais il y a des habitudes qui sont des habitudes de négligence, d'autosuffisance, qui nous laisse aussi dans une certaine médiocrité. Le Seigneur voudrait nous faire accéder à des hauteurs et puis on se suffit avec une vie platonique, hein, sans grande passion, sans grande saveur. Et cette vie-là n'est pas faite pour nous. Elle n'est pas faite pour l'enfant de Dieu, ce n'est pas ce que le Seigneur a voulu. Mais il y a des chrétiens qui vivent leur vie comme ça. Ils ne sont pas de ceux qui sont retournés à leur péché, de ceux qui, on pourrait les montrer du doigt, peut-être même les mettre sous discipline, parce que ça aussi, ça existe, hein, pourquoi pas. Non, il n'y a rien à dire, et c'est parfois ce qui est bien dommage, c'est quand il n'y a rien à dire. Et un chrétien, sa vie doit être passionnante. Elle est bouleversante même. Alors, dans l'assemblée, ça ne se voit pas beaucoup, mais bon, c'est une vie quand il y a le feu, quand on sort d'ici, le feu est encore dehors, hein, sur nos lieux de travail, partout, hein, dans nos familles, dans nos rencontres. Il y a toujours quelque chose à dire, à vivre, à faire, et qu'on ramène à la maison ici quand on se retrouve. Puis j'ai vu ces chrétiens qui subitement se sont réveillés, se sont retrouvés dans une dimension de vie exceptionnelle, et ce sont eux qui m'ont dit « Frère, voyez, avant j'étais pas converti. » J'ai l'impression qu'aujourd'hui je suis né de nouveau. Alors ce sont leurs propos. Ce sont leurs propos. Il n'était pas question pour moi de dire celui-ci est converti ou pas converti. Quand on a les brebis en face de soi, elles ont toutes de l'importance. Mais le berger, ce qu'il voudrait, c'est avoir un troupeau de brebis en bonne santé, avec de l'activité, de la réactivité aussi. Et puis on essaye, et parfois c'est pas facile de conduire, parce que parfois il faut tirer. Hein. Mais il se passe quelque chose, comme il s'est passé dans la vie de David pour le réveiller de sa vie de pêcheur, puisqu'il a connu pendant un certain temps la vie d'un homme pêcheur avec son péché qui le rongeait jusqu'à ses os. Et quand il revient au Seigneur, il vit comme une nouvelle conversion, un nouveau départ. Mais c'est sérieux sa situation, mais c'est beau pour nous parce que ça nous montre que le Seigneur c'est le restaurateur et que l'Esprit de vérité est là pour nous aider. Il est là pour nous faire revivre. Sa mission, c'est de glorifier Jésus dans notre vie. Et si nous voulons bien le laisser faire, alors nous allons avoir Jésus glorifié dans notre vie. Et glorifier Jésus dans notre vie, c'est une autre dimension dans la vie chrétienne que simplement celle d'avoir cette confession de dire « je crois en Jésus ». J'aime Jésus. Je suis persuadé que tout le monde est sincère quand on dit j'aime Jésus. Le problème, c'est qu'on l'aime à notre manière. Mais est-ce qu'il y a ce Jésus que j'aime glorifié dans notre vie? Et ce terme glorifié, il a été peut-être, pardonnez-moi d'avance pour ce que je vais dire, hein, mais il a peut-être été trop chanté, prononcé, et on a oublié la vraie portée de cela. Parce que glorifier Jésus, c'est avoir le poids réel de notre Seigneur, le poids de sa gloire. Quand Jésus veut se glorifier dans notre vie, il veut se faire voir avec le poids de sa gloire, avec les conséquences de sa présence, avec ce qui découle de son existence dans nos vies par l'Esprit de vérité. Et quand Jésus prie dans le chapitre suivant, Jean chapitre 17, eh bien, Jésus dit quelque chose d'extraordinaire au verset 24, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. » Et c'est la mission du Saint-Esprit de faire en sorte que nous soyons là où Jésus est. Et c'est important ce qu'il dit. Lorsque Jésus se retrouve devant ses détracteurs, il vient de faire une œuvre majestueuse. Il y a cette femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Lui qui pouvait lui jeter la pierre, il ne lui jette pas la pierre, il la relève. Il la relève. Et lui donne la force de ne plus pécher. Ça, c'est un réveil. C'est l'action des paroles de Jésus dans la vie de cette femme qui vont changer son cœur. Elle aura le pouvoir de ne plus pécher. Puis vous avez ces gars-là, ces religieux, ceux qui savent tout, ceux qui jugent de tout et qui oublient de se juger eux-mêmes et qui sont capables d'affronter le Seigneur Jésus dans sa divinité, dans son autorité de celui qui pardonne les péchés et qui relève. Et Jésus va leur dire, « Moi, je sais d'où je viens et où je vais. » Là, je crois que chaque chrétien devrait avoir ces mêmes paroles pour sa vie. « Je sais d'où je viens et je sais où je vais. » Si nous sommes conscients de là où le Seigneur nous a tirés, jamais rien ne dépendra de notre propre force. Mais nous avons été sauvés, convaincus par l'Esprit de vérité. Il a éclairé notre âme, il a ouvert nos yeux, et il a fait de nous d'abord un pécheur qui se repent. Pour devenir un pécheur qui va être restauré, remis debout, mais pour vivre une vie avec le poids de la gloire de Jésus. Et l'Esprit Saint, personnellement, que j'ai connu le jour de ma conversion, ne m'a jamais lâché. Et je n'ai jamais pu le lâcher. C'est pas possible. Nous vivons dans le déroulement de notre vie des étapes. Parce que nous sommes des humains qui allons vers la mort. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Dès le jour où vous êtes né, vous êtes sorti du ventre de votre mère, le compte à rebours a commencé. Et comme me disait cette femme de 105 ans, elle m'a dit « ça fait 105 ans que j'apprends à bien mourir ». Voilà. Mais dans les étapes de notre vie, il s'est passé des événements et de beaux événements aussi. Il n'y a pas que du mauvais dans la vie. De beaux événements, on rencontre celle qui va devenir notre femme, on voit nos enfants arriver au monde. Après, il y a le travail, il y a des événementiels comme ça. Moi, je dis toujours, il y a le jour où l'on a été introduit dans le service de Dieu, c'est quelque chose quand même, c'est une grande responsabilité, mais c'est un honneur, il faut le dire. Bon, mais toutes ces choses-là ne vaudront jamais, jamais, le jour où on a été tiré du péché, on est sorti de l'enfer, on est né de nouveau. Ce jour-là, c'est le plus beau. Et dans toute notre vie, l'Esprit Saint qui a su parler, toucher notre cœur, c'est déjà lui que nous devons suivre et développer dans notre vie. Et vous avez des chrétiens, ils se disent, mais comment faire pour être rempli du Saint-Esprit? Mais qu'est-ce que c'est? Comment y arriver? Mais pourquoi moi? Mais si un jour vous avez été convaincu de péché, pour vous tourner vers Jésus, vous avez reçu quelque chose du Saint-Esprit, une part de son action, et ça doit se développer dans votre vie. Et ça se développera parce que le Saint-Esprit est là pour nous donner dans notre vie toutes les dimensions de Jésus, tout le poids de Jésus. C'est cela, glorifier Jésus. C'est quand je regarde mon frère, ma sœur, eh bien je vois l'œuvre de Jésus dans chacun. Chacun avance à sa vitesse, mais chacun est dans la volonté de Jésus qui a voulu. Et cette prière demeure encore aujourd'hui. Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Donc ceux qui sont nés de nouveau. Par la volonté de Dieu qui a voulu nous sauver en nous faisant connaître Jésus. Il faut, frères et sœurs, que l'Esprit Saint habite dans notre vie pour mettre en évidence dans notre vie la personne de Jésus. Moi, je remarque aujourd'hui dans les assemblées, d'une manière générale, qu'il y a trop d'ignorance. Il y a trop de chrétiens qui ne connaissent qu'à peu près les choses de Dieu. Mais si nous avons le privilège de voir le Saint-Esprit agir en nous pour glorifier Jésus, mais son Esprit Saint nous enseigne toutes choses. Et nous allons vivre des choses merveilleuses. Je le disais il n'y a pas longtemps à l'église, j'étais tout jeune converti, et je me souviens à l'époque, peut-être que des frères se souviennent de cela, il y avait un livre qui circulait, c'était « Que ferait Jésus à ma place ?» Et beaucoup de chrétiens achetaient ce livre parce que, ben, est-ce que j'ai le droit de faire ceci? Est-ce que j'ai le droit de faire cela? Est-ce que, bon, c'était ce que je retenais, moi, de ce que j'entendais. Et je n'ai jamais ouvert ce livre, jamais. Ça ne m'a jamais attiré. Ce qui m'attirait, c'était de lire la Bible. Et quand je lisais la Bible, je lisais et je disais, mais Seigneur, si tu l'as fait, moi je crois que ça a existé, donc c'est aussi pour moi. Et je bataillais avec ces choses, j'ai dit, mais ça doit être aussi pour moi. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi qui l'as dit. C'est écrit, et je n'avais besoin que de lire la parole de Dieu, et je trouvais une présence dans ces lectures qui me faisait grandir dans une présence et qui faisait que j'étais de plus en plus comme un réfugié dans les bras de Jésus. L'esprit de vérité, on ne va pas l'expliquer avec que des mots, c'est pas possible. Mais on va le vivre. Et quand Jésus dit « Vous vivrez », Jésus a voulu que nous vivions sa vie. Et frères et sœurs, ne cherchons pas à tout expliquer, mais cherchons à vivre la présence. La présence du Seigneur Jésus, c'est magnifique, c'est ce qui va nous fortifier. Jésus dit dans sa prière du chapitre 17, au verset 9, « C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. » Et je suis glorifié en eux. C'est magnifique. Jésus va être crucifié pour le monde. Mais dans cette prière, avant qu'il ne soit saisi pour être cloué sur la croix, c'est pour nous qu'il prie. C'est pour nous. D'abord, ceux qui l'ont suivi, et au travers de la prière de Jésus, elle ne se limite pas seulement à ses apôtres qui l'ont suivi, mais à tous ceux qui, comme nous encore aujourd'hui, nous pouvons voir dans l'âme du Seigneur Jésus. Sa pensée nous est traduite, sa prière nous est traduite, mais c'est l'expression de son âme pour tous ceux qui croiront en lui, pour vivre, et vivre au travers de sa prière. Et aujourd'hui encore, Jésus a cette même motivation, ce même zèle pour chacun d'entre nous, que nous soyons avec lui le résultat de sa prière, que tout ce qui est à lui, qui est du Père, qui lui a été donné, cette unité, ce summum de la puissance divine, soit partagé avec nous. Ça nous dépasse, mais c'est une réalité. Jésus l'a voulu et nous sommes au bénéfice de la prière de Jésus, glorifié en eux, dans notre vie. Vous savez, peu importe ce que nous sommes, ce que nous représentons humainement parlant, pourvu que Jésus soit glorifié dans notre vie. Moi, j'ai vu un SDF s'approcher de l'imposition des mains et il m'a dit, il venait d'entendre le message de l'Évangile, il a entendu parler de Zachée quand Jésus lui a dit « il faut que je demeure dans ta maison ». Et ce SDF m'a dit « Pasteur, moi j'ai pas de maison, mais Jésus est entré ici ». Voilà. Et c'est la maison préférée du Seigneur. C'est la maison préférée du Seigneur. Et l'Esprit de vérité, c'est là qu'il doit demeurer. Ne soyons pas des chrétiens qui aimons l'ambiance. Parce que dans une réunion où il y a l'onction du Saint-Esprit, il y a une belle ambiance. Oh, j'ai pas peur de parler d'ambiance. Une réunion où il y a l'onction du Saint-Esprit, il y a de la joie sur les visages, il y a du bonheur et il y a une bonne ambiance. Alors on va dire, oh, quelle bonne ambiance ici. Mais ça suffit pas, ça. Parce que l'ambiance, c'est le résultat de ce qui se passe dans nos cœurs. Vous savez, les démons qui ont été chassés du ciel, dans le ciel, ils savent ce que c'est que d'être dans la présence de Dieu. Ils ont su ce que c'était que d'être dans la présence de Dieu avant de chuter ses esprits. Ils savaient quel repos, quel bonheur, quelle tranquillité il y a, une chose que nous connaîtrons dans le ciel, que nous connaissons en partie par notre nouvelle naissance, mais au ciel c'est la perfection. Au ciel, il n'y a pas les ennuis que nous vivons tous les jours en tant qu'élus. Dans le ciel, c'est fini tout ça, plus de peur, plus de deuil, etc. Ils ont connu cet état de repos, mais ça n'a pas suffi dans leur vie. Ils ont été expulsés du ciel. Ce sont des anges déchus. Et aujourd'hui, ils sont tourmentés et ils cherchent un peu de repos en habitant, en essayant de trouver habitation dans l'être humain. Ils sont tourmentés. Et nous, dans nos réunions, quand il y a cette onction sur nos réunions, mais il y a quelque chose de bien, quelque chose de beau, quelque chose de bon, que certains peuvent vivre comme une ambiance. « Ah, j'aime l'ambiance de vos réunions », quelqu'un m'a dit une fois. Quand on entre chez vous, on sent la paix. Mais ça ne suffit pas. Il faut que l'onction soit déposée dans nos cœurs, dans nos vies, pour avoir des conséquences, la présence de Jésus qui s'amplifie, qui s'amplifie. Ce qui reste à côté de nous, vous savez, les païens sont capables de vous dire « Ah, mais quand je suis à côté de vous, on sent de bonnes choses. » Moi, je me souviens, on allait déménager et puis des gens sont venus voir le logement pour, à leur tour, le louer s'ils l'acceptaient. Alors, il y avait le mari et la femme, et puis ils étaient dans la maison, ils regardaient, comme ça, on leur faisait voir. Et puis, la femme s'est tournée vers son mari en nous regardant, elle disait « Mais je sens des ondes positives ici. On sent que c'est une maison qui est bien habitée. Il y a des ondes positives. » Alors, je lui ai dit « C'est normal, madame, nous sommes chrétiens. Il y a la présence de Jésus. » Alors, ce que cette femme ressentait, pour nous, ça nous a fait sourire. C'est aussi un bon témoignage, mais pour elle, ça ne suffisait pas. Il aurait fallu que ce qu'elle ressentait soit dans son cœur, soit dans sa vie. Et pour nous, chrétiens, c'est comme ça. On bénéficie, vous bénéficiez de bonnes choses dans ce lieu, mais il faut qu'elles s'inscrivent dans votre vie. Il faut que le Seigneur Jésus soit en nous. Pour être là où Jésus veut nous emmener, il faut qu'il soit en nous. Je ne peux pas croire un seul instant que le Seigneur Jésus va accueillir dans son ciel des personnes qu'il n'a pas connues. Des fois, on dit, tiens, vous ici, on est surpris. Ce ne sera pas comme ça dans le ciel. Dans le ciel, ceux qui y entreront, ce sont ceux qui auront eu la dimension de Jésus dans leur vie, avec l'esprit de vérité. Il ne s'agit pas seulement de croire pour être sauvé, c'est la base. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Mais c'est cette foi qui nous amène à saisir la personne du Sauveur dans notre vie pour avoir une croissance spirituelle, pour nous fortifier et connaître Jésus de mieux en mieux. C'est ce dont nous avons besoin. Dans l'Évangile selon Luc au chapitre 10, nous avons ces 70 disciples qui ont été envoyés par Jésus. Ils reviennent vers lui. Au verset 17, les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Alors, si déjà on a ça, mais pour beaucoup de chrétiens, c'est extraordinaire. C'est la vitrine de l'Église. C'est la vitrine du témoignage. Vous vous rendez compte, les démons nous sont soumis. Nous les chassons au nom de Jésus. Et Jésus atteste, parce que là, c'est du vrai, c'est un vrai témoignage. Il a vu Satan tomber du ciel comme un éclair, sans aucune puissance pour résister à cette campagne d'évangélisation. Mais au verset 20, Jésus dit, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Et il nous est dit, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, « Je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, etc. » Et j'aimerais m'arrêter quelques instants sur ce passage quand Jésus nous dit « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Il va se passer quelque chose. Au moment où Jésus dit ces choses, le Seigneur Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Jésus n'a pas connu, écoutez bien, la joie collective. Il y a des rassemblements qui sont dangereux, parce que celui qui dirige est dangereux. Il va essayer de mettre le feu en faisant vivre à un auditoire, à un groupe de personnes, une joie collective. Alors vous en avez, vous savez, les faux prophètes, les faux docteurs, ils ont quand même des spécialités, et c'est pas n'importe qui est faux docteur ou faux prophète. Ils sont habiles, et ils sont capables de créer des joies collectives. Une fois que c'est fini, il y a eu comme une espèce d'euphorie. Et c'est comme si vous alliez à la salle de sport, vous avez une poussée d'adrénaline, ça vous a fait du bien, vous ressortez, vous vous sentez, ça fait de l'effet. Et ces gens-là agissent de cette manière avec la joie, cette joie collective. Jésus n'a pas connu cela. D'ailleurs, Jésus s'est retrouvé à dire à des disciples, « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Dans les cieux, il y a un livre, c'est celui de Dieu. Il y a un livre qui a été écrit pour les hommes, c'est celui-là, le livre de Dieu écrit pour les hommes. Et dans le ciel, il y a un livre qui a été écrit pour le Seigneur. C'est son livre. Et dedans, il y a le nom des élus. Le Seigneur Jésus, en disant cela à ses disciples, il va tressaillir de joie par le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que le Seigneur a exulté, mais ça n'avait rien à voir avec une joie qu'on n'explique pas. Nous, les enfants de Dieu, nous avons la joie de notre salut. Elle est perpétuelle. Même, et je ne raconte pas d'histoire parce que je ne suis pas le seul. Si j'étais le seul, vous pourriez douter, mais il y en a d'autres ici. Même quand vous passez par les mauvaises nouvelles, par des combats, des difficultés, quand vous êtes malade, vous sentez cette joie, cette joie. Il n'y a pas longtemps, je ne vais pas vous faire peur, hein, mais c'est fini, hein, mais on a eu le Covid, ma femme et moi. Et puis j'ai passé une nuit, je tremblais comme ça. Et j'ai essayé de saisir quelque chose, ça tremblait, ça m'a échappé de la main. Avec des courbatures, mais des choses vraiment, vous maîtrisez plus. Physiquement, ça va pas. Mais je me suis surpris dans mon cœur, j'étais joyeux. Joyeux. Mais j'ai dit, joyeux. Ben oui. Mais cette joie, vous l'avez, c'est l'Esprit Saint en nous, hein. C'est beau, ça, hein. C'est beau. Et moi, je le dis, pourquoi? Parce que je suis sauvé. Je suis un sauvé. Je suis pas joyeux parce que j'ai 42 fièvres, hein. Je vous souhaite pas de l'avoir, hein. Et je souhaite pas revivre cette expérience. Mais je suis joyeux parce que je suis sauvé. Je suis sauvé, peu importe le climat, les circonstances. Et quand Jésus a été joyeux à ce moment-là, cette joie avec le Saint-Esprit, c'est la joie du Sauveur. C'est la joie de celui qui a part à cette œuvre salutaire. Quand Jésus a parlé du nom inscrit dans les cieux, il parle de ce livre qui est le livre de Dieu, qui est le sien, mais c'est une joie extraordinaire qui est sortie du Seigneur. Jésus n'a pas exulté de joie. Il a exulté de joie par le Saint-Esprit pour sa victoire sur le diable, de voir le diable jeté à terre. C'est pas ça qui a été la motivation de sa joie. La motivation de sa joie, c'est qu'il est le Sauveur, il a pris part, il a mis en place le plan de salut et des noms sont inscrits dans les cieux. Ça, c'est une joie imparable. Alors là, rien à voir avec la joie collective. Alors imaginez, frères et sœurs, maintenant nos rassemblements. Chacun vient avec cette joie. Sa propre joie. C'est extraordinaire. On dira plus, ah, mais celui qui a fait chanter, il était un petit peu mou. Si on avait eu quelqu'un de plus dynamique, ça se serait mieux passé. On aurait été mieux et plus motivé, non? Il y en a qui parlent comme ça. Il y en a qui parlent comme ça. Si je viens avec la joie de mon salut, je viens avec l'esprit de vérité. Et là, ça change tout dans les réunions. Ça change tout. Ça change le déroulement et l'après. C'est plus une ambiance, c'est une présence. C'est du vécu. Il n'y a plus besoin de faire chauffer une salle. Je veux que là où je suis, ils y soient aussi. Donc Jésus nous attend définitivement un jour là, où il nous a préparé une place. Mais franchement, frères et sœurs, on n'est pas là pour attendre que ce jour vienne pour ne plus voir la présence de Jésus et ne plus être là où lui existe dans ce lieu. Nous vivons la présence de Jésus, et si Jésus m'attend dans le ciel, c'est parce qu'il m'a connu en bas. parce qu'il habitait avec nous dans nos cœurs. L'esprit de grâce, de sainteté, qui prend de ce qu'est à Jésus pour le glorifier en nous, il est dans ma vie. On revient au chapitre 16 de l'Évangile selon Jean, et nous pouvons lire au verset 19, « Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, leur dit, « Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. » C'est beau, hein? C'est beau parce que c'est exactement le déroulement de notre vie, hein. Vous savez, les disciples qui ont laissé Jésus, on n'est pas mieux qu'eux, hein. Des fois, on est bien content, mais pas au sens de la méchanceté, que d'autres sont passés avant nous, et nous, ça nous évite d'y passer. Mais on n'est pas mieux. Le Seigneur Jésus nous a dit ces choses et ce sont des choses précieuses pour nous. Les disciples qu'il avait, même quand Jésus parle de sa mort, eh bien, ils sont en train de discuter entre eux, de savoir qui serait le plus grand. Il y en a même qui sont venus avec leur maman, pour convaincre Jésus que quand il sera là où il veut que nous soyons, eh bien, ses deux fils, ben, il y en a un à droite et un à gauche. Comme ça, les deux places sont prises. Vous voyez, là, c'était quand même une drôle de mentalité, mais c'est humain. C'est humain, hein, c'est ce qui peut nous arriver à tous, hein. Nous, on est toujours en train de faire des échelles de valeur, de faire des classements, on est compliqué, mais compliqué. Et Jésus a eu affaire à ses disciples alors qu'ils étaient même incapables de comprendre ce que Jésus voulait leur enseigner dans certaines situations et notamment en ce qui concerne ses souffrances, sa crucifixion, sa résurrection, ça les dépassait. Et il y a des choses qui peuvent nous dépasser. Vous savez, j'ai vu des chrétiens qui aimaient Jésus à leur façon, mais qui n'avaient pas vraiment compris le sacrifice de Jésus. Pourquoi ? Non pas par l'explication, mais par la démonstration de leur vie. Et que la crucifixion et la résurrection de Jésus pouvaient très bien ressembler à une relique dans leur vie. Quelque chose dont ils pouvaient parler, mais avec ignorance, parce que pas de vécu, pas de vécu. Mais le Seigneur Jésus nous connaît tous. Et le but du Seigneur Jésus, toujours, toujours, jusqu'au bout, c'est que nous puissions enfin laisser l'Esprit de vérité le glorifier en nous. Le Seigneur insiste, insiste. On ne peut pas, mon frère, ma sœur, vivre la vie chrétienne sans cette intimité, cette communion avec l'Esprit de vérité. Et vous n'avez pas besoin d'aller dans une école particulière pour cela. Je dis toujours aux chrétiens, si vous en voulez avec Dieu, vous en aurez. Mais si vous n'en voulez pas, eh bien, vous resterez comme vous êtes. Et même le plus ignorant parmi nous, eh bien, s'il en veut, il en aura. Et le Seigneur nous étonnera. Pas lui, le Seigneur nous étonnera. Parce que, y a-t-il quelque chose d'étonnant qui vienne de la part de l'Éternel ? Et c'est l'œuvre de Jésus qui nous est proposée. Et le Seigneur Jésus a besoin de nos interrogations. Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, il anticipe même nos interrogations. Il y a des choses dans lesquelles nous baignons et nous voudrions nous en sortir. Ce sont des choses qui ne sont pas faciles au point de vue spirituel, ce sont des choses que nous n'arrivons pas vraiment à comprendre ou à accepter aussi. Et on a des interrogations sincères, Jésus les connaît, il anticipe même. C'est-à-dire que ce matin, vous êtes capable d'avoir entendu quelque chose, vous n'avez jamais osé poser la question à celui ou celle qui est proche de vous, ou votre pasteur, que sais-je encore, mais là vous entendez des choses qu'il fallait que vous entendiez parce que Jésus anticipe toujours. Combien de fois dans les réunions, des enfants de Dieu qui étaient en difficulté pour comprendre les choses, pour les accepter, parce qu'il y a des choses qu'on a du mal à accepter aussi dans la vie spirituelle. Bon, on a du mal à les accepter parce qu'on est dans un corps charnel aussi, pas seulement de chair, mais charnel aussi. Et l'Esprit de vérité, quand il prend de ce qui est à Jésus, il prend de ce que Jésus a préparé pour chaque vie en particulier, pour nous faire vivre avec l'Esprit de vérité, pour nous faire avancer dans une croissance spirituelle, pour nous faire faire des progrès et nous permettre de dominer sur notre nature qui nous joue bien souvent des tours. Et l'œuvre du Saint-Esprit, c'est cet accompagnement miraculeux dans chacune de nos vies pour faire de nous des chrétiens qui marchent avec l'Esprit de vérité et qui se fortifient chaque jour qui passe. Alors le Seigneur, en s'adressant à ses disciples, en les précédant dans leur interrogation, il va leur dire encore une fois la vérité, oui, vous allez pleurer, vous allez pleurer. Il y a des chrétiens qui, pour eux, quand on est au Seigneur, on est toujours joyeux, c'est vrai, mais on pleure aussi. On pleure aussi. Soyez toujours joyeux, même quand vous pleurez. Parce que soyez toujours joyeux, ça ne veut pas dire soyez toujours joyeux, vous pleurerez jamais. Ce n'est pas vrai. Soyez toujours joyeux, le Seigneur va vous guérir à chaque fois. Non, c'est soyez toujours joyeux, et puis Jésus dit, vous pleurerez. Quand il dit, vous pleurerez, c'est pleurer sur soi, jusqu'à même se souhaiter du mal. Et on peut comprendre le sens de ces paroles, parce que il s'adresse à des disciples qui ne vont pas être à la hauteur. Ils ne vont pas être à la hauteur. Ils vont se disperser. L'épreuve va être quand même conséquente. Vous savez, le Seigneur Jésus n'est pas celui qui nous fait systématiquement des reproches de l'avoir laissé, hein, d'être parti sans lui. Dans l'Évangile selon Jean, il va dire « Vous me laisserez seul ». Mais, je ne suis pas seul. Il est avec le Père. Mais, il va leur dire aussi, je vous dis cela pour que vous ayez ma paix. Il sait qu'il a en face de lui des disciples qui ne seront pas à la hauteur, mais la volonté de Jésus, c'est qu'ils aient sa paix. Parce que Jésus nous connaît bien, et c'est lui qui fait en nous ce que nous, on ne peut pas faire. Nous, ce qu'il faut, c'est le désirer. Le jour où je vais dire au Seigneur Jésus, mais Seigneur, je suis un misérable. Seigneur, j'ai besoin de changer, c'est moi qui ai besoin de changer. Seigneur, mais c'est dans ma vie qu'il doit se passer quelque chose, pas chez l'autre, dans ma vie. J'ai été incapable d'être ce que j'aurais dû être. Pour ça que Jésus dit, vous pleurerez. Et il y en a toujours qui se réjouissent. Toujours. Ceux qui sont là pour nous rappeler ce que nous sommes. Il a dit, les autres, eux, ils vont se réjouir en vous voyant. Il y a toujours quelqu'un pour nous rappeler nos faiblesses, pour nous rappeler nos inconséquences. Et Jésus dit, vous pleurez. Parce que devant ces personnes qui sont comme des témoins pour nous rappeler, vous en avez qui sont capables de pleurer sur eux-mêmes, de dire, Seigneur, je l'ai mérité ce mal. Je n'ai pas été à la hauteur. Mais imaginez ces disciples, parce que vous souffrez de certaines choses pour certains, et vous vous dites irrécupérable. Mais imaginez ces disciples, ils ont crucifié leur maître. Et une fois que Jésus a été crucifié, il n'y a plus rien à faire, ils l'ont abandonné, ils ne peuvent plus revenir en arrière, eux, il n'y a plus de solution. Mais ce n'est pas ce que vous avez vécu, vous. Et pourtant, Jésus va les relever. Il va les retrouver. L'esprit de vérité va leur être donné d'une manière remarquable. Nous le verrons la prochaine fois. Mais Jésus a pensé à tout. Jésus connaît toutes nos faiblesses. Jésus, avant même que nous ne l'interrogions, sait ce qu'il y a au fond de nos cœurs et qui nous amène à avoir des larmes parce que nous sommes meurtris à cause de ce que nous sommes. Vous vous lamenterez. Ils vont gémir. Et ce mot qu'emploie Jésus, c'est un mot qui montre des gémissements, même dans les chants. Vous savez, des chrétiens, quand ils chantent, le masque, ça les arrange aujourd'hui. Mais quand ils n'avaient pas de masque, il y a des chrétiens qui chantent, ils n'ont pas l'air heureux. Ils chantent des vérités. Ils chantent même des chants qu'ils aiment, qu'ils ont aimé chanter avec de la joie, du bonheur sur le visage, mais ils en sont arrivés aujourd'hui à chanter. Mais dans leur cœur, ce sont des lamentations. Ce sont des gémissements. Et ça, l'esprit de vérité le voit. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que avec Jésus, il y a toujours la solution. Pas une solution, mais la solution. La solution. On vient chargé, fatigué, usé, répréhensible, pourquoi pas? Et Jésus dit, mais je sais pourquoi tu pleures. Je sais pourquoi ça a changé chez toi, tes cantiques là. On les chantait ensemble avant, hein, avec de la joie. Presque à bondir sur ta chaise. Mais là, tu gémis. Mais Jésus va dire, hein, vous avez de la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Il faut que l'esprit de vérité reprenne sa place dans notre vie, que nous nous laissions convaincre pour nous réjouir comme Jésus s'est réjoui. Il faut que, mon frère, ma sœur, tu retrouves la joie de ton salut. Elle est précieuse, cette joie, c'est l'âme, c'est le moteur de notre vie. C'est le témoignage de Jésus par le Saint-Esprit. C'est le témoignage de la parole de Dieu qui reprend sa place dans toute ma vie. Et c'est l'œuvre de Jésus de nouveau en moi. Alors je vais assumer mes inconséquences, parce que parfois il faut les assumer, mais avec la joie de mon salut retrouvé, avec ce bonheur. Triste, votre tristesse, au verset 22, se changera en joie. Et le verbe changer qu'emploie Jésus, c'est la nouvelle naissance, c'est la naissance. De nos tristesses peut naître la joie de notre salut. Et vous savez, frères et sœurs, la tristesse dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est remarquable. Parce que la tristesse témoigne que le Saint-Esprit ne s'est pas éloigné de nous. Vous m'entendez? Quelqu'un se dit là, moi je suis toujours triste, je n'ai pas le Saint-Esprit. Eh bien, sache, mon frère ou ma sœur, que cette tristesse témoigne au contraire, que le Saint-Esprit ne t'a pas abandonné, que le Seigneur n'a pas retiré son Esprit Saint. Quand quelqu'un n'a plus l'Esprit du Seigneur, les sentiments de tristesse à l'égard des choses de Dieu, ça n'existe plus. C'est l'indifférence qui s'installe. C'est le mépris qui s'installe quand l'Esprit est retiré. On n'est plus travaillé dans notre cœur. Mais c'est justement parce que tu as des larmes que le Saint-Esprit n'est pas loin. Peut-être faut-il prier comme David a prié quand il dit au verset 12 du psaume 51, « Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » On parle de bonne volonté, mais on sait bien que la bonne volonté ne fait pas tout. Alors c'est mieux que ça. Littéralement, David dit au Seigneur, « Renouvelle en moi, ou plutôt renouvelle ce souffle à l'intérieur de moi. » Renouvelle ce souffle à l'intérieur de moi. Redonne-moi quelque chose de nouveau, quelque chose d'inédit, c'est-à-dire un réveil, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas existé avant, quelque chose que je vais vivre à nouveau. Tu ne peux pas, mon frère, continuer à vivre sur les souvenirs, les beaux souvenirs. Il y a de belles choses dans la vie chrétienne, des belles choses qui se sont passées. Moi, je me réjouis toujours, et encore ces derniers temps, quand je parlais, ou plutôt quand le frère Basile, votre pasteur, me parlait de sa conversion, ses expériences, on se retrouve, on retrouve les actions du Saint-Esprit, la vie de Dieu, on se réjouit de ces choses-là. C'est merveilleux, c'est l'histoire de notre vie, le témoignage de Jésus. Mais tu ne peux pas vivre que sur le passé. Le passé, il existe. On s'en souvient, il est beau. Mais aujourd'hui, le Seigneur doit avoir cette place du passé au présent. L'Esprit de Dieu est avec toi pour te faire vivre des choses nouvelles. Rien à voir avec des choses nouvelles qu'il faut inventer pour redonner un peu de passion à nos vies. Vous voyez, comme si on était avec le Seigneur Jésus, un couple qui vieillit, qui ne se parle plus. On a mis la télé entre Jésus et nous. Bon, c'est peut-être une réalité aussi, mais bon. Mais cette vie avec Jésus, mais c'est la passion jusqu'au bout. Il y a l'Esprit de Dieu. Il y a ce lien. Il y a la joie de notre salut. C'est l'éternité, ça. C'est des choses qui vont rester. Ce n'est pas des choses qui vieillissent. Et le Seigneur est capable de renouveler, de redonner un souffle nouveau, de réveiller. Et ces moments que nous vivons dans la prière sont des moments pour animer ces choses, parce que le Seigneur Jésus l'a voulu. Quand Pierre va devant cet auditoire de religieux, le jour de la Pentecôte, va prêcher cet évangile, il va citer encore des paroles de David qu'il a prononcées au psaume 16 en disant « Tu me rempliras de joie par ta présence. Tu me rempliras de joie par ta présence. » Dans certaines traductions, c'est le mot « abondance ». Bon, alors c'est littéralement, écoutez bien, c'est être rassasié. Mais pas être rassasié pour dire « ça va, j'ai plus faim ». C'est rassasier quelqu'un au point, écoutez bien, on est dégoûté. « Ah, j'en peux plus, je n'en peux plus, c'est trop. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, je sais que vous n'allez pas me le dire, parce que vous n'allez pas vouloir passer pour quelqu'un qui fait des excès de table. Vous avez raison de garder ça pour vous. Mais là, vous imaginez la présence de Jésus au point de... Ben non, je t'ai plus, quoi. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Ça vous est jamais arrivé, ça? Ma femme pourrait vous le dire, mais t'es arrivé de me dire, bon, moi, je vais me coucher, c'est le trop-plein. Il faut que j'évacue, maintenant. Il faut que mon esprit communique tout seul avec le Seigneur et que moi, j'ai besoin de dormir. Tu me remplis de joie par ta présence. Ça nous dépasse. Hein? Les délices avec le Seigneur, c'est des friandises, littéralement. Il est beau, notre Seigneur. Hein? Il y en a qui s'imaginent que de vivre avec l'esprit de vérité, mais c'est une vie austère, c'est une vie... Ah non. Mais quand je suis rempli de la joie de mon salut, quand le Saint-Esprit, c'est lui qui m'anime, mais je suis le meilleur des maris, je suis la meilleure des femmes, je suis le meilleur des grands-pères. Vous avez vos petits-enfants, ils vous regardent et puis ils vous disent, même quand on est vieux, hein, moi je suis encore jeune, grand-père, mais bon, ils vous disent, ah, mon grand-père, il n'est pas comme ça. Ils voient en vous un héros. Mais c'est vrai, ça. Et pourtant, il y a les douleurs, le vieillissement, personne ne va l'arrêter, le gagatisme aussi, pourquoi pas, et tout le reste. Mais qu'est-ce qu'on est heureux dans la présence du Seigneur. Mais frères et sœurs, le Seigneur l'a mis à notre disposition, ça. Et c'est à nous de saisir ces choses-là. Moi, je n'ai pas envie de laisser ma part. Je peux vous promettre qu'à chaque réunion que je fais, même celle-ci, j'ai dit, Seigneur, ce matin, je me suis levé. Et puis, bien sûr, comme vous, hein, je suis adressé au Seigneur, mais je n'ai pas envie de laisser ma part, hein. Même si je viens pour apporter la nourriture, j'ai dit, mais Seigneur, moi, il m'en faut. Et je ne vous laisserai pas ma part. Mais chacun, il y a tout ce qu'il faut pour chacun. Ah, on a un Seigneur merveilleux, n'est-ce pas? Alléluia! Merci, Jésus. Sois béni, Seigneur, pour ta présence. Alléluia.